Parking Nomade.
Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parking Nomade qui s'intéresse à la littérature dans tous ses états. Aujourd'hui, il sera question du hasard, de l'heureux hasard, de la belle oisiveté qui est féconde, de la vie, en somme, telle qu'elle devrait être, telle qu'elle est déjà pour mon invité, je le lui souhaite, Denis Grosdanovitch, qui vient de publier un essai en forme de promenade, La puissance discrète du hasard, donc c'est paru chez De Noël, et qui est également l'auteur de plusieurs ouvrages, mais notamment de savoureuses chroniques. En fait, c'est un blog tenu sur le site du journal Libération qu'il a réuni, mais augmenté d'autres textes, alors qu'il a réuni sous le titre « L'art difficile de ne presque rien faire ». Je crois que le « presque » est important
oui.
Et qu'on trouve en format de poche dans Folio. Denis Grosdanovitch, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce sont là deux ouvrages, je le dis d'emblée, que j'ai beaucoup aimés. D'abord parce qu'ils font la part belle à la littérature, et à certains écrivains de prédilection, Sebald par exemple, mais il y en a d'autres, Baudelaire, mais aussi parce qu'ils traduisent une attitude devant la vie qui est plus exigeante qu'il n'y paraît. Alors commençons par la puissance discrète du hasard. Sa forme qui peut paraître déroutante aux adeptes là, de la dissertation en trois points, épouse les méandres et les caprices de son sujet, je dirais. Votre pensée procède là par bonds et associations dans une apparence de désordre qui est tout, sauf le désordre, justement. Cette approche, s'agissant du genre de l'essai, vous paraît-elle plus féconde que celle privilégiant le raisonnement introduit, développé et conclu?
Bien, c'est-à-dire qu'en fait, ce à quoi je me suis attaqué en filigrane dans ce livre, c'est ce qu'on peut appeler la pensée cartésienne. C'est finalement le fait d'avoir dans la tête des programmes trop contraignants qu'on veut absolument respecter. Et de ce fait, on devient un petit peu psychorigide et on passe à côté des occasions, on passe à côté des rythmes naturels qui, eux, ne sont pas en ligne droite, ne sont pas formatés à l'avance. Le cartésianisme, et je m'attaque aussi par un certain biais à ce qu'on peut appeler la pensée mathématique et la pensée scientifique moderne.
Ouais. Et à la technique, la technique
évidemment, qui en découle.
Ouais. Ouais.
Parce qu'au fond, c'est ça ce qui se passe, c'est que finalement, non seulement on a des lignes droites, mais des cubes, des triangles dans la tête, alors que si vous regardez un arbre, je veux dire, il est sinueux, si vous regardez une rivière, tout ça est assez paradoxal par rapport à notre pensée. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien ce qui se passe sur la planète. Les gens un peu sensibles ont quand même l'impression qu'on va vers une catastrophe. Et moi, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que c'est dû en profondeur à cette façon que nous avons de ne plus épouser les rythmes naturels, de ne plus épouser les sinuosités de ce que je crois être le réel.
Ouais. Donc la catastrophe écologique appréhendée, par exemple, s'agissant de la planète, ce serait une conséquence du cartésianisme mal compris et surtout mal pratiqué?
Exactement, pour moi c'est ça, oui. C'est surtout un résultat de cette ce qu'on peut appeler la mathématisation du monde, c'est-à-dire le fait de s'imaginer que, alors que les mathématiques sont un outil logique qui peut nous permettre de prendre appui sur le réel, mais pas de le détruire.
Oui. Alors, il y a plusieurs notions que vous convoquez dans cet essai, parce qu'il s'agit bel et bien aussi d'un essai. Alors, à partir du mot anglais serendipity, vous avez forgé en français le mot sérendipité, qui désigne dans les deux cas la découverte heureuse, une découverte heureuse faite par hasard. Il y a des exemples.
Et en cherchant tout autre chose.
Et en cherchant tout autre chose. Oui, c'est ça. C'est pas seulement disponible au hasard, c'est chercher autre chose et mieux trouver, au fond.
Mais comme vous l'avez dit, il faut être disponible.
Il faut être disponible.
Et c'est ça, tout le problème de notre civilisation, de la façon dont nous sommes, on peut bien le dire, formatés dans les écoles, c'est que nous ne sommes pas du tout formatés à la sérendipité. C'est-à-dire, nous voulons suivre les programmes et les belles occasions qui se présentent, on les laisse passer.
Oui, parce qu'il faut suivre le programme. Alors, il y a des exemples fameux de découvertes faites de cette sorte. La découverte de l'Amérique par Colomb, en fait, Christophe Colomb, vous les citez. La tarte tatin, pour prendre un exemple plus trivial. Ou la loi de la gravité par Newton, pour faire plaisir à nos amis mathématiciens.
Mais pas seulement, il y a la photographie par Nicéphore Niépce, la pénicilline par Fleming, la lampe à incandescence par Thomas Edison.
Ouais, finalement, il y a pas mal de choses.
Énormément.
On doit au hasard pas mal de choses. Mais en français, donc sérendipité, vous avez forgé ce néologisme.
Non, c'est pas moi, hein, c'est quelques écrivains qui l'ont fait. Mais...
Enfin, vous l'avez repris.
C'est un mot
qui n'est pas tout à fait dans l'usage courant. Mais en français, il existe l'adjectif fortuit. Pourquoi ne convenait-il pas? Ce n'est pas exactement la même chose.
On a essayé de forger le mot fortuitude, mais bon, c'est pas très joli, sans doute c'est pour ça. Non, ça n'a pas marché. Les gens préfèrent, mais puis l'anglo-saxon étant prédominant, tout le monde dit maintenant sérendipité.
Ouais. Mais que vous ayez dû avoir recours à un néologisme n'est-il pas révélateur d'une certaine tournure d'esprit français, ce qui n'a pas prévu dans sa langue?
Moi, en plus, vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle que Le Seuil a voulu appeler Le Petit Grosse Dase, c'est pas moi qui. Et c'est Les Merveilles oubliées du Littré. Et effectivement, moi, j'ai toujours pratiqué le dictionnaire Littré. Ouais. Qui, à mon avis, d'ailleurs, est une merveilleuse manière d'apprendre la langue française.
Qui est une mine de renseignements et de citations
littéraires. Oui, avec des citations surtout prodigieuses. Et donc, je me suis amusé à essayer d'exhumer et de vouloir réintroduire dans la langue française des tas de néologismes.
Oui. Notre, Denis Grozanovich, notre civilisation occidentale dite cartésienne, comme on l'a vu, est souvent gouvernée, c'est un paradoxe, par l'irrationnel. Par exemple, on n'a qu'à penser au fameux bug de l'an 2000, qui s'est dégonflé comme une baudruche aussitôt passé minuit. Comment réintroduire dans cette rationalité de façade des éléments spirituels qui ne relèvent pas du New Age ou des sectes ou du charlatanisme?
Ah, ça, c'est une très bonne question parce que, vous voyez, ce livre a eu un certain succès, ce dont je me félicite d'une certaine manière. Mais en même temps, disons, il y a une contrepartie, c'est que beaucoup de gens, justement, de cette sorte d'ésotérisme que moi, que j'exècre, ont lu le livre comme ils l'ont voulu. Et donc, ils ont fait un succès à ce livre, alors que ce n'est pas du tout ça dont je veux parler. Et vous, je m'en aperçois qu'ils l'avaient bien lu, vous avez vu que je me défends, justement, de tomber dans cet ésotérisme facile. Non, je ne fais qu'indiquer qu'il existe un monde de genre que la science, si elle devait être la vraie science, devrait, des phénomènes sur lesquels elle devrait se pencher. Mais je ne donne pas d'explication, je ne donne pas de... Simplement, à mon avis, en dehors de cette rationalité qui est la nôtre habituellement, il en existe une autre. Parce qu'au fond, l'irrationnel n'existe pas, selon moi. Dès le moment où on parle avec des mots, dès le moment où on réfléchit, on est dans le rationnel. Mais moi, je voudrais dégager une autre sorte de rationalité. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je parle beaucoup de la pensée chinoise, qui devrait nous aider énormément, parce que c'est une rationalité très différente de la nôtre.
Oui, mais cela étant, quand on voit...
Je parle de l'ancienne Chine.
Oui, parce que quand on voit la Chine actuelle...
Non, ils ont tout abandonné. De leur
ancienne culture. Ils ont pris les leçons de l'Occident. Hein. Ils ont bien...
Maintenant, bien sûr.
Retenu les leçons de l'Occident, de ce point de vue. Mais précisément, comment éviter l'amalgame que ne manqueront pas, qu'ont déjà fait là, ceux qui sont insensibles à cette autre dimension de la réalité? Ils pourraient balayer du revers de la main votre propos en disant ce sont des élucubrations New Age.
Ce
n'est pas le cas, bien sûr.
Non, mais c'est l'étude quand même, finalement... Pour la critiquer, je me suis quand même beaucoup appuyé, disons, sur la philosophie rationnelle. J'ai étudié quand même les prémices des sciences. Mon jardin secret, c'est l'épistémologie, donc je m'intéresse beaucoup à l'histoire des sciences. À partir de ce moment-là, vous ne risquez pas de tomber dans ces amalgames faciles où tout a rapport avec tout. Ce que j'appelle dans le livre, parce que j'ai découvert ce mot, l'apophénie. L'apophénie, c'est une sorte de psychose qui fait que les gens ont tout le temps l'impression que tout a rapport avec eux, et ils sont concernés partout, et vous voyez, on voit des rapports partout. Alors ça, non, ça, je trouve ça épouvantable. Il me semble au contraire qu'il faut savoir vraiment raisonner. Et il y a un autre chapitre du livre, comme vous l'avez vu, où je défends le fait de savoir généraliser. Et comme le dit Sebald d'un moment, il n'y a rien de plus brutal que cet adage, il ne faut pas généraliser. Le problème, c'est qu'en général, on généralise mal et qu'on fait des générations hâtives. Mais savoir généraliser, c'est très difficile, ça s'apprend. Et donc, c'est toute une façon d'être qu'on ne sait plus faire, parce que maintenant, les gens raisonnent à tort et à travers. Et ça demande, effectivement, c'est une sorte de science de savoir généraliser à bon escient.
vous écrivez « Mon scepticisme », puis là, vous vous en prenez surtout à la technoscience, mais « Mon scepticisme ne s'exerce qu'à l'encontre d'un certain usage de la raison ». Quel est ce mauvais, à quoi tient ce mauvais usage de la raison?
Eh bien, au départ, pour moi, c'est surtout dû justement à la façon dont on a étudié les mathématiques. Schopenhauer, lui-même, le grand philosophe, avait indiqué une autre manière de faire des mathématiques, qui serait plus fondée, d'une certaine manière, sur l'intuition qu'on l'a faite. J'estime, par exemple, que les mathématiques, mais même la philosophie, devraient être étudiées de manière historique et non pas thématique. Quand vous êtes jeune élève, et surtout si, comme moi, vous avez un tempérament philosophique, on vous parle des équations, par exemple, on vous dit vous appliquez, mais on ne vous explique pas ce que c'est qu'une équation, on ne vous explique pas ce que c'est qu'un axiome. Maintenant, on vous demande d'appliquer bêtement des principes qui sont censés, en plus, régir l'univers. Et ça, justement, quand on se penche sur les plus savants des penseurs, on se rend compte que ce n'est pas du tout évident que les mathématiques aient un rapport avec l'univers, justement.
Donc, il y a un côté mécanique aux mathématiques telles qu'elles sont enseignées et pratiquées,
oui,
contre
oui.
quoi vous vous élevez,
oui, si
au
les
nom
étudie...
de la nature même des mathématiques.
Bien sûr, si on devait les étudier de manière historique, on saurait que tel penseur a pensé comme ça, qu'ensuite un autre a pensé comme ci, et puis qu'au fond, il y a eu plein de théories différentes, que certaines ont prévalu, mais précisément par hasard.
Ouais.
Donc, et que ça n'avait aucune... Et pratiquement, c'était justement pas aussi rationnel qu'on pourrait le penser.
Ouais.
Donc, en fait, moi, je suis un rationaliste. Mais j'estime que, justement, c'est paradoxal. Mais ce rationalisme qui a prévalu actuellement est d'une certaine manière erroné et irrationnel. C'est lui qui est irrationnel et non
ouais.
pas... Voyez, donc c'est...
Mais Denis Grosdanovitch, je suis un rationaliste, dites-vous. Du coup, quelle place le sentiment religieux occupe-t-il dans votre vision rationaliste?
Bien ça, évidemment. Alors là, c'est très compliqué parce que, comme l'a dit Pasteur, peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup en rapproche.
Il y ramène, oui.
Et il me semble qu'une véritable rationalité bien comprise nous amène obligatoirement à ce que j'appellerais les instances supérieures. Moi, personnellement, évidemment, j'ai tendance à ne pas souscrire au Dieu unique, vous voyez, donc, mais je suis mystique, c'est-à-dire je pense réellement qu'il existe des forces supérieures qu'il nous faut découvrir. Mais donc, j'aurais tendance à croire au Dieu au pluriel, mais pas à Dieu. Mmh. Voyez.
Mais pour la plupart des gens soumis au rythme de la vie moderne, le sentiment religieux, quelle que soit la forme qu'il puisse prendre, n'est-il pas condamné à être intermittent au contact, par exemple, de la mort ou de la maladie, ou dans certains lieux propices? Vous les évoquez à un moment donné dans votre livre, une grotte, par exemple, ou une église vide. Alors, une vie spirituelle en point entendu au sens large de vie spirituelle, est-elle encore une vie spirituelle ou un succès d'année?
Oui, maintenant c'est souvent devenu un succès d'année et moi je voudrais réinstiller effectivement du religieux dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que j'aime beaucoup les rituels. Il y a un livre extraordinaire qui a été écrit par un anthropologue néerlandais qui s'appelle Johan Huizinga, qui s'appelle Homo Ludens, et montre à quel point le jeu a rapport avec le sacré. Roger Caillois avait déjà parlé de ça, le jeu et le sacré. Et moi, quand je me suis entraîné toute ma vie, puisque j'étais champion sportif étant jeune, j'avais vraiment l'impression de me rapprocher du sacré en jouant. Vous voyez, c'est pour ça que, aussi, quand j'observe les animaux en train de jouer, je sais qu'ils sont aussi des enfants... alors là, vous voyez, bon, je suis un peu piégé par les mots, des enfants de Dieu, comme nous tous. Et voilà, moi j'aimerais que précisément, puisque le mot religion au départ c'est relier les êtres, j'aimerais que nous soyons beaucoup mieux reliés d'âme à âme que nous le sommes justement par les communications.
Mmh.
Vous voyez, je ne sais plus qui a dit ça.
De plus, manière factice,
plus,
souvent.
Plus il y a de communication, moins il y en a.
Moins il y en a. Oui, moins il y a de vrais échanges entre les gens.
Vous voyez, quand je vois tous ces jeunes qui sont au portable du matin au soir ou sur les jeux de vidéo... Ça, à mon avis, ça, au contraire, ça nous atomise,
ouais.
Ça ne nous relie pas du tout.
Vous citez à juste titre beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écrivains, vous êtes un grand lecteur de la littérature ou de la philosophie, toutes deux disciplines que vous convoquez. Laquelle est la plus riche d'enseignements en ce qui concerne votre propos? Laquelle nourrit davantage votre propos?
Il n'y a pas de différence. Je veux dire, les grands écrivains, ceux que je considère comme des grands écrivains, sont toujours des philosophes. Parlons par exemple de votre grand écrivain que j'ai découvert, je vous le disais hors antenne tout à l'heure, Gabriel Roy, qui est un écrivain de première grandeur. Alice Munro, c'est prodigieux qui vient d'avoir le prix Nobel. Mais quand même, c'est la classe en dessous par rapport à Gabriel Roy. Alors Gabriel Roy, je me rends compte qu'il est plus...
Gabriel Roy est supérieur selon vous à Alice
Munro. Pour moi, oui.
De toute façon, à ce genre de palmarès, chacun
comme on
y
dit,
va aussi.
Comme on dit vulgairement, il n'y a pas photo.
Oui.
Et donc, parce que Gabriel Roy, c'est un philosophe en plus. Alice Munro, c'est quelqu'un qui décrit les mœurs, qui est très fine et tout ça. Mais Gabriel Roy, elle parle d'énormément de choses. À travers ses nouvelles, par exemple, les nouvelles ou même ses romans, elle développe toute une philosophie profonde. Mmh. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est sur ces gens-là qu'il faut se pencher. Les grands écrivains ont toujours quelque chose qui relie les êtres entre eux.
Oui, mais précisément, Gabriel Roy ne le fait pas, et c'est l'approche de la littérature, ne le fait pas de manière rationnelle, on va dire.
Ah non.
Alors, du coup, la philosophie n'est-elle pas trop rationnelle pour ce que nous cherchons en vous lisant, par exemple ?
Alors, ça dépend quel genre de philosophie. Effectivement, si c'est la philosophie universitaire, oui, là, ça va décourager beaucoup de gens. Mais les grands philosophes, lus dans le texte, en général, on est surpris de s'apercevoir qu'ils sont d'une très grande simplicité. Et alors, évidemment, il y a des philosophes qui sont à la limite entre la littérature et la philosophie. Moi, mon bréviaire, c'est Montaigne. J'ai lu Montaigne toute ma vie, je continue de le lire sans arrêt. Et Montaigne, est-ce que c'est de la philosophie, est-ce que c'est de la littérature? C'est un peu entre les deux. Mmh. Et je veux dire, tout grand écrivain est en même temps un philosophe. Et... les écrivains mineurs, ils ne le sont pas. Ils nous parlent uniquement de leur névrose, vous voyez.
Et en littérature, précisément, il y a le courant, il y a le mouvement surréaliste, le surréalisme à une époque avec sa formidable charge imaginative. A-t-il, selon vous, tenu ses promesses ?
Ben non, justement, malheureusement. Au départ, c'était prodigieux et puis ensuite, ça s'est un petit peu rigidifié, on le sait, mais ça peut-être à cause de la personnalité d'André Breton, qui était...
assez dogmatique aussi.
Dogmatique, qui est devenu même tyrannique. Malheureusement, voilà. Non, à mon avis, ça n'a pas tenu ses promesses, mais les promesses étaient prodigieuses. Oui, tout à fait. Au départ, comme que j'essaie de l'expliquer dans le livre, je cite des choses des passages. Il ne faut pas laisser s'embroussailler les chemins du désir. Par exemple,
c'est magnifique.
J'ai vu que ça avait été repris dans un article de José Blanchette. Ça lui avait beaucoup plu, cette phrase que j'avais citée d'André Breton. Et c'est vrai que quand les gens la redécouvrent.
Denis Grozanovitch, une notion récurrente dans ces deux livres, c'est ce que vous appelez, dans la foulée de la philosophe Élisabeth de Fontenay, la sollicitude animale. C'est-à-dire cette présence attentive, intelligente des animaux aux côtés de l'homme et qu'on ne voit pas assez. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas assez cette sollicitude animale agissant ?
Alors, bien, ça, évidemment, peut-être ça va moins vous plaire, mais c'est là où j'en veux un peu au christianisme, c'est d'avoir infériorisé les animaux. Dès le départ. Et donc,
parce que l'être humain était jugé
donc,
le sommet de la création.
Élisabeth de Fontenay, dans son livre, nous explique que c'est là le début du racisme, d'ailleurs, c'est le fait d'avoir infériorisé les animaux. Et ensuite, évidemment, ces êtres qu'on prétendait inférieurs, comme les Indiens d'Amérique, quand on les a découverts, étaient assimilés aux animaux. Moi, je pense bien au contraire que nous avons beaucoup de choses à apprendre des animaux. Et pour commencer, et là... je sais que c'est un peu audacieux comme thèse, mais moi, ma façon de voir, c'est que dans un passé très très lointain, les animaux ont fait ce choix inconscient, si ça veut dire quelque chose, c'est une sorte d'oxymore, mais de ne pas développer la conscience. Parce que précisément, la conscience, au fond, l'hyperconscience, telle que nous l'avons développée, nous, en Occident, nous rend malheureux. Elle nous ramène à la solitude, elle nous ramène à la mort. Si on vit beaucoup plus dans un état d'agrégation communautaire, disons, c'est peut-être pas le terme exact, mais dans l'état, ce que les anthropologues appellent le holisme, hein, c'est-à-dire que le groupe compte plus que l'individu, on meurt moins, on souffre moins aussi, parce que la chambre d'écho de la conscience n'est pas là pour répercuter la conscience. Et donc, il me semble que nous devrions retourner à une conscience... un peu plus gourde, un peu plus lente, un peu. Oui.
Ouais. Mais est-ce que pour autant il faut sacrifier l'intelligence dans ce retour à la conscience?
Ah ben, pour moi, oui.
Vous êtes prêt à aller jusque-là?
Oui,
vous qui
tout
écrivez
à fait.
Des livres, vous qui êtes rationaliste,
en tout cas,
vous
pas
qui
cette
lisez.
Oui, bien sûr, c'est un paradoxe parce que moi, oui. Je suis tout à fait là-dedans. Mais d'une certaine façon, je crois que collectivement, nous devrions retourner à une forme d'innocence. Et d'ailleurs, mon prochain livre devrait s'appeler « Défense et illustration de la bêtise », en jouant sur la belle ambivalence du mot, c'est-à-dire la bêtise. Parce que j'ai souvent remarqué que les gens réputés stupides dans un groupe, finalement, c'est des gens qui ne voulaient pas savoir. Ouais. Ils n'avaient pas envie d'être intelligents. Et au fond, c'est le problème de l'imbécile heureux, qui est quand même un grand problème philosophique. Si on est moins intelligent, on est peut-être plus heureux aussi.
Ouais. Oui. Et puis c'est Jules Verne qui disait qu'il n'est pas bon qu'un écrivain soit trop intelligent.
Oui.
Au mieux qu'il soit. Mais vous avancez même l'hypothèse, parce que là, vous allez...
En fait, c'est retourner une certaine forme de sensibilité.
Voilà. Oui, au fond. Vous avancez même l'hypothèse, alors je reviens aux animaux, que les interférences animales ne viennent se manifester à nous, là je vous cite, ne viennent se manifester à nous qu'aux occasions de relâchement de notre tension rationalisante. Alors, les animaux seraient donc aussi parfois, selon vous, de ces signes du monde, là, que, au même titre que certains événements survenant dans les périodes de crise ou...
Ah bien, ça...
Alors, et là, c'est Jung, on reconnaît évidemment la pensée
bien
de
bien sûr,
de
mais
Jung.
Vous savez, à la suite de ce livre, j'ai reçu un courrier incroyable et tas de gens me disaient « Ah oui, c'est vrai ce que vous racontez sur les animaux. » Au moment où ma mère est morte ou à un moment où un de mes proches est mort... Effectivement, un animal s'est manifesté de façon inhabituelle.
C'est ce qu'on dit parfois dans les maisons de retraite, qu'il y a un chat qui ne va jamais dans telle chambre.
Et
puis quand le lendemain, 24 heures plus tard, ça a été, paraît-il, rapporté à plusieurs reprises.
Oui, et puis pas seulement ça, c'est les animaux viennent en quelque sorte comme pour... Ils sentent qu'on est en désarroi, donc on a relâché notre psycho-rigidité habituelle. Ils sentent qu'ils peuvent nous approcher et nous aider.
Ouais.
Parce qu'ils ont une grande compassion pour nous.
Ouais. Mais Jung, vous le rappelez aussi, et là je vais vous citer de nouveau, a parfaitement circonscrit la part de projection dans le surgissement de simultanéité. Donc l'individu ne reçoit pas passivement les signes du monde, il se projette aussi, il interprète le monde.
Alors, voilà,
et il interprète aussi l'attitude animale.
C'est là où ça devient compliqué et qu'il faut se livrer à des analyses personnelles un peu complexes pour savoir... Quelle est la part de projection? Quelle est la part qui vient effectivement de l'extérieur? Ce qui est difficile à déterminer.
Ouais.
Et il faut être très vigilant pour ça.
Ouais. Denis Grozdanovic, on va parler un peu de l'art difficile de ne presque rien faire. Le presque est ici le plus important, je pense. Je l'ai mentionné dès le début. Que désigne-t-il au juste? Alors, presque ne rien faire, qu'est-ce qui reste quand on s'est débarrassé de tout le reste?
En fait, dans ce livre, il ne s'agit pas des paresseux. Il s'agit plutôt de ce qu'on appelle les oisifs. Mais les oisifs, dont je fais partie, sont des gens qui sont en fait extrêmement actifs, mais qui en fait sont réfractaires. C'est-à-dire ils font tout sauf ce qu'on leur demande. Ils sont, vous voyez, ils n'arrêtent pas de se livrer. Par exemple, si je cite le cas d'un humoriste anglais, Benchley, qui raconte qu'il a un article à écrire, et puis il commence par tailler ses crayons, il classe ses magazines, ensuite il se persuade qu'il faut absolument qu'il aille chez le coiffeur. Enfin, il n'arrête pas de faire des tas de petites manœuvres dilatoires avant d'écrire.
Mais ce n'est pas pour se défiler.
Non.
C'est pour se mettre en état, peut-être, d'écrire.
Oui, de certaines façons, indirectement, mais oui, c'est une forme de... au fond, je dirais que c'est la peur de rejoindre... c'est un rapport avec, d'ailleurs, la peur de la mort, je dirais, parce qu'au fond, achever quelque chose, finir quelque chose, après, c'est fini. Et donc, c'est rester dans une sorte de flou qui nous permette de continuer à rêver, quoi. Mmh. Et donc... je pense que, être capable de prendre son temps, par exemple, c'est en fait aussi une manœuvre dilatoire, en toutes circonstances, c'est finalement une manière, à mon avis, de mieux vivre et de mieux rêver.
Ouais. Mais réfléchir, formuler à l'aide de mots, c'est encore agir. Pourquoi le faites-vous?
D'agir?
Oui.
Ah non, mais moi, ce que je veux dire, c'est... Je veux, en fait, d'une manière un peu humoristique, pointer une autre manière d'agir que la nôtre, qui ne soit pas dans le stress, qui ne soit pas dans
l'agitation.
Dans l'agitation stérile, dans le conformisme. Essayer, finalement, de reprendre un peu le contrôle sur nos vies, plutôt d'être complètement automatisé par cette civilisation moderne qui nous décérèbre, si on peut dire, et qui nous automatise complètement, qui nous atomise en plus.
Et donc vivre mieux et plus intensément.
Oui, et alors il y a un piège là-dedans, c'est de devenir trop aussi un individu à part entière, parce qu'au fond, ça veut dire quelque chose, c'est une des manœuvres les plus sournoises de cette civilisation moderne, c'est de devenir un individu, un peu une star, et en fait c'est un individualisme de masse. Et les stars, pour moi, ce sont des marionnettes, précisément. Elles ne sont pas du tout individuelles. Oui. Alors, c'est pour ça que j'oppose maintenant, je joue sur les mots, j'oppose l'être singulier à l'individu.
Oui. Et donc, il y a une nuance de taille là, dans cet être singulier.
Et alors, le presque aussi, c'est que très souvent dans la vie, quand on veut changer quelque chose, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un presque rien. Et on en fait toujours trop. Et de ce fait, on détruit notre projet. Souvent, il n'y a pas grand-chose à changer. Et là, c'est le zen qui peut nous apprendre quelque chose.
Alors, Denis Gross-Danovis, je ne peux qu'inviter ceux qui nous écoutent à s'abandonner à la lecture de vos deux livres. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de plusieurs livres que, pour ma part, j'ai envie maintenant de découvrir. Mais ce qui nous a intéressés aujourd'hui, c'est « L'heureux, la puissance discrète du hasard » paru chez De Noël au début de l'année. Et « L'art difficile de ne presque rien faire », tout un programme à quoi il faut s'attaquer dès maintenant. repris en folio. Parking Nomade est diffusé à l'antenne de Radio Ville-Marie. À la technique aujourd'hui, Guy Lafrance. Au microphone, Marie-Andrée Lamontagne. À la prochaine.